12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui au cinéma avec deux films, un blockbuster qui nous entraîne sur les courts de tennis et dans les possibilités du triangle amoureux. C'est Challengers de Luca Guadagnino et une pépite inédite de 1971, Bushman de David Chikele sur les pérégrinations de Gabriel, nigérian qui déambule dans une Californie alors en tension entre lutte étudiante et répression policière.
Bonjour Antoine Léris.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur, rédacteur en chef du trimestriel Respect et vous allez débattre ce midi avec Adrien Denouette. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Critique de cinéma et enseignant, soyez les bienvenus dans les midis de culture.
Et on commence avec le film Challengers de Luca Guadagnino en salle aujourd'hui.
What are you gonna do now?
Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket.
I want you to be my coach.
I want you to be my coach.
How often does this happen? Going after the same girl? Come here.
Which one of us? This is a game about winning the points that matter.
I don't need to play mind games with you.
Come have a cigarette with me, I have to talk to you.
I don't smoke, and I'm not talking to you.
Vous connaissiez le triangle amoureux, Jules et Jim, César et Rosalie ou Twilight. Vous connaissez aussi bien sûr le tennis, sport de raquette qui oppose deux joueurs, chacun d'un côté du filet. Mais connaissiez-vous le triangle amoureux sur un court de tennis, celui qui ne voit pas deux adversaires s'affronter, mais trois amants, amoureux, rivaux, se défier, s'approcher, se confronter, se jalouser ou s'encourager, et cela non pas le temps d'un match, mais de plusieurs années. Eh bien, c'est l'occasion de le découvrir avec Challengers, gros film à gros casting, l'actrice Zendaya en tête qui interprète Tashi, ancienne championne reconvertie en coach sportive, mariée à Hart, mais désirée par Patrick, ami et rival de Hart sur le terrain. Ici, le désir est un jeu, une balle de tennis qu'on se renvoie sans arrêt, décor épuisé par l'intensité du jeu entre admiration et concurrence. Qu'avez-vous pensé de ce film de Luca Guadagnino, Antoine Léris ?
Eh ben, étonnamment, j'aurais dû détester, j'ai trouvé ça absolument génial. En tout cas, j'ai adoré
Pourquoi
le moment que j'ai vécu.
Vous aviez des a priori ?
Alors, j'aurais dû détester parce que, comme on l'a entendu, la musique va très très fort, c'est très lourd. C'est vraiment un film très lourd qui va avec les gros sabots et qui pourtant a réussi en tout cas à déclencher chez moi quelque chose de très fort que j'avais pas vécu depuis longtemps au cinéma. D'abord, il faut peut-être dire que c'est un blockbuster et que ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un blockbuster où les héros ne sont pas en collant et en cap. Alors ils sont en short, certes, mais je trouve qu'on progresse, on revient un peu vers
ils
l'humain
ont fait des
et on abandonne
quand même,
un peu les super-héros. Et ça déjà, ça fait plaisir. Et puis il y a quelque chose que je trouve magnifique et qui résume absolument le film, c'est cette phrase qui est répétée au début, au milieu et à la fin. Mais est-ce qu'on parle vraiment de tennis? Et cette phrase-là, tous les personnages la disent à un moment ou à un autre. Et c'est donc bien ça exactement tout l'enjeu du film, c'est-à-dire c'est de filmer un match de tennis, comme avec les manières dont est filmé un film pornographique. Dit comme ça, ça paraît très étrange, et pourtant c'est vraiment la réalité de ce film-là. La musique est très très forte, les angles de caméra sont absolument hallucinants. On a des angles de caméra qui sont en dessous, le terrain qui est en vert, on a une vue subjective depuis la balle. Enfin, tout est très subjectif et suggestif tout au long du film, mais il y a malgré tout, comme dans les dialogues, il y a une grande intelligence et une grande finesse qui justement se choque avec cette mise en scène grasse, lourde, à gros sabots, quelque chose de très étrange qui s'en dégage et d'assez sensuel finalement. On revient à des films qu'on n'avait pas vus depuis longtemps non plus, qui ont irrigué les années 90 et donc ma jeunesse perdue maintenant. Des films comme Sex Intention, des films comme ça qui étaient...
Oh oui, je m'en souviens.
Et ben voilà, des films qui étaient très suggestifs, avec beaucoup de sensualité, avec une jeunesse qui découvre la sexualité, avec beaucoup aussi de clichés, et le film n'en manque pas non plus. Mais voilà, j'ai trouvé ça très étonnamment réjouissant.
Alors vous avez quand même prononcer le mot de pornographique, donc on va y revenir. Mais avant ça, Adrien Denouette, qu'en avez-vous pensé de Challengers ?
Alors d'abord, la prise de parole d'Antoine à l'instant me pose un vrai problème. Je pensais qu'on assisterait à un match de tennis, mais en fait on va jouer en double, puisque je suis absolument totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Donc je vais juste abonder dans son sens avec mes mots à moi, mais mon ressenti est exactement le même, c'est-à-dire que je m'attendais aussi à détester. D'abord parce que j'étais plutôt déçu des précédentes tentatives de Guadagnino de faire briller comme ça une espèce de retour baroque et très maniériste dans le cinéma après le plutôt timoré, dans le style en tout cas Call Me By Your Name, qu'il avait un peu mis sur la carte du grand public. Et après, il avait fait deux tentatives très très stylisées, notamment un remake de Giallo qui était vraiment vraiment raté. Donc je m'attendais à ce que ce soit une énorme... Je m'attendais à prendre plaisir, mais même à prendre plaisir, je trépignais à l'idée de le défoncer, pour ne rien vous cacher. Et en fait, j'ai parfaitement adoré pour les mêmes raisons qu'Antoine. C'est-à-dire que, en fait, la très très belle idée du film, c'est effectivement d'érotiser le moindre élément du tennis. Et ce qui est très beau, c'est que ce soit fait dans le milieu du tennis, justement. Le tennis, c'est pas n'importe quel sport. D'abord, c'est un sport qui a beaucoup intéressé le cinéma. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui renvoie qui véhicule une certaine image d'élégance et de noblesse. C'est un sport où, quand on le regarde dans un stade, on dit quiet. Tout le monde se tait. Et on peut entendre, justement, remonter tout le refoulé sexuel, érotique, qui se passe dans n'importe quel sport, avec ces espèces de cris, ces gémissements, ces râles qu'on a tous entendus au tennis et qui nous ont tous gênés à une finale de Roland-Garros devant nos parents. Sauf que là, c'est très très amusant de se dire, très bien, que va faire Luca Guadagnino d'un match de tennis, avec cette espèce de sous-texte de triangle amoureux qui en fait n'est pas vraiment un triangle. Ce qui l'intéresse le plus, c'est ce qui se passe entre les deux personnages masculins joués par les excellents Josh O'Connor et Mike Fest. Et c'est l'idée de organiser une séparation et une réunion, une espèce de film de remariage autour du tennis. Avec cette
Et de
cette
remariage d'amitié, en fait.
De remariage d'amitié. Mais de remariage quand même. Parce qu'en fait, la métaphore du film, c'est que si le sport canalise une forme de refoulé sexuel de la société, là, lui permet de s'exprimer de manière très pudique. Et si le tennis le fait avec un écrin de manière encore plus importante que partout ailleurs, comme par exemple dans le foot, on a le droit de gueuler, en fait, ça va être encore plus intéressant à transgresser, effectivement, par une mise en scène extrêmement appuyé, qui va, quand je vais décrire très précisément ce que dit Antoine, enfin je pense qu'on est d'accord, quand il parle de pornographie, c'est-à-dire que vous allez, qu'est-ce qu'on appelle un porn shot, par exemple dans le langage de la publicité, et le film évoque beaucoup la publicité d'ailleurs esthétiquement. Un porn shot, c'est quand vous savez, si vous avez une publicité pour un gloss avec Kendall Jenner, et ben le fameux plan où on va voir le gloss s'appliquer sur la lèvre, c'est-à-dire le plan le plus gros, le plus resserré, qui isole l'organe, et ben ça c'est ce qu'on appelle dans le langage de la pub un porn shot. Et ben Luca Guadagnino joue vraiment par son style et par sa mise en scène à détruire et vraiment bouleverser et perturber la mise en scène très glacée, très guindée du tennis, qui mine de rien permet de voir tout le match d'un seul coup. Lui va, comme le disait Antoine, aller du point de vue de la balle, montrer la goutte de sueur qui tombe du menton. Évidemment, en plus, il y a toute une espèce de symbolique entre les personnages où on s'indique, on se donne, il y a un langage codé qui veut dire j'ai fait l'amour, je n'ai pas fait l'amour. Enfin bref, il y a toute une espèce de... Voilà, de langage de teasing comme ça, qui est extrêmement maîtrisé, pardon. Alors, qui se fait sur un fond de, voilà, le propos est un peu limité, un peu lourd. Moi, je trouve par exemple que le personnage de Zendaya est un peu trop fonctionnel, plus que réellement
investi
incarné.
En tant que tel.
Ouais, je trouve qu'ils sont dans des...
Et c'est intéressant parce que la promotion est quand même énormément fondée sur elle. Zendaya, on l'a vu dans Spider-Man, on l'a vu dans Dune, on l'a vu dans la série Euphoria. Elle porte vraiment, c'est vraiment le sommet de ce triangle. Et finalement, ce personnage-là, il sonne un petit peu creux. Ça vous a fait aussi le même effet, Antoine ?
Moi, j'ai trouvé son personnage assez intéressant dans le sens où c'est une femme, évidemment, qui va permettre de libérer cet amour entre ces deux hommes qui pensent tout au long du film ou être amis ou être adversaires quand ils sont sur un terrain et qui, en fait... de manière sous-jacente, se cherchent l'un l'autre jusqu'à peut-être se retrouver à la fin du film. Moi, je trouve ça très beau, la place qu'elle a, et dès la première scène, puisque en fait, la qualité et le défaut du film, la qualité du film, c'est de raconter un faux amour à trois, qui est en fait un amour à deux, avec une personne qui permet cet amour, et cette personne-là, c'est Zendaya, et c'est aussi son
défaut.
C'est
la médiatrice, presque.
Exactement, c'est-à-dire 2h15 sur juste cet endroit-là, c'est probablement un petit peu long pour ce film-là. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé inintéressant du tout, et je trouve ça bien, surtout qu'elle se prête à ce type de film, dans un Hollywood où on est très puritain, et de plus en plus, elle affiche une forme de sexualité assumée qui est quelque part intéressante et transgressive En tout cas, par rapport à l'époque.
Mais alors, est-ce que c'est véritablement transgressif dans la mesure où, en fait, cette manière de filmer le tennis comme du porno rappelle des films qu'on a déjà vus, vous l'avez dit, dans les années 90? Est-ce que c'est si, en fait, transgressif, voire subversif de voir ça à l'écran?
Alors, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'était le néo-thriller érotique des années 90, qui a été un vrai sous-genre, hein, dont la mode a été relancée par Basic Instinct, avec Sex Intention et tout ça. Sauf qu'il y a quand même une grosse différence, c'est que dans les années 90, c'est l'une des décennies où on s'est le plus permis de montrer. D'ailleurs, à l'image du film que je viens de citer, Basic Instinct. Et donc, dans Sex Intention et dans ce néo-thriller porno, il y avait, enfin, porno, érotique, il y avait quand même des actes sexuels. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, où le sexe est vraiment rejeté
hors champ.
Ce qui est une façon.
Donc, paradoxe, à un film porno, mais sans scène
de
sexe.
C'est pas paradoxal. C'est un film d'époque, c'est un film de notre époque.
C'est un film qui négocie avec les tabous et les limites de l'époque, mais qui le fait de manière extrêmement intelligente parce que, en fait, il va compenser ce qu'il ne peut pas montrer par, justement, un système formel extrêmement suggestif. Donc, en fait, on érotise à mort. Et c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec, du moins, je rejoins pas totalement Antoine sur l'idée que Zendaya est investie parce que je vois la fonction qu'elle occupe. Évidemment, c'est le trait d'union entre les deux personnages, mais on voit très très bien que les deux que Luca Guadagnino érotise le plus et a le plus envie de montrer, ce sont évidemment les deux acteurs masculins. Et ça marche très très bien. Parce qu'ils incarnent une espèce, au tout début du film, c'est une espèce de duo qui est surnommé le feu et la glace. Et donc, vous retrouvez cette espèce de stéréotype.
Un peu cliché, oui.
Voilà, c'est le Nadal et Federer, Stéphane Edberg et McEnroe.
Nadal et Federer, oui, faudrait que Nadal soit...
Laurel et Hardy.
Je trouve que tout le monde est la glace en fait dans le tennis, mais... c'est plus... Non, mais si vous voulez, c'est des clichés du mélodrame, quoi. C'est du soap. C'est celui qu'on épouse et celui qu'on baise.
Oui.
Et bah, c'est exactement ça.
Le blond, le brun, c'est
le
séducteur gentil.
Le blond, c'est celui qu'on épouse. Le brun, c'est...
Voilà.
Voilà, vous m'avez compris.
Tout à fait.
Et Zendaya, moi, je trouve que je comprends parfaitement la fonction qu'elle a. Je comprends aussi la fonction commerciale. On parlait de blockbuster, je trouve ça légèrement exagéré. C'est un film d'auteur à vocation fortement commerciale. Blockbuster, bon... C'est non.
Ouais, c'est une petite nuance, Adrien, quand même. On est matraqué. On est quand même matraqué de promotion autour de ce film depuis 2 mois. Là, ça sort. Il y a déjà des papiers depuis 10 jours dessus. Donc, c'est quand même présenté comme un blockbuster.
C'est un film d'auteur à vocation fortement commerciale.
Ok, allez, je vous l'accorde.
Mais c'est très bien. Un blockbuster.
Allez, voilà, merci.
Mais c'est très bien. Je trouve ça très bien que ça existe et je pense que ça peut vraiment trouver son public. Et je pense que c'est très bon pour cet autre cinéma qu'est le blockbuster. Cet autre cinéma que le blockbuster, justement.
Alors, si je vous suis bien, vous deux, Antoine, Adrien, la mise en scène vous a particulièrement happé. Cette manière, voilà, de suivre la caméra, c'est la balle. Ça nous épuise, c'est très rythmé. Il y a quelque chose de l'ordre de la pub, même du clip. J'ai pu lire dans certaines critiques. Est-ce que l'intrigue, elle est intéressante? Est-ce que, voilà, en fait, est-ce que ça se tient aussi? Est-ce que c'est pas prévisible? Antoine.
Comme toute histoire d'amour à trois, évidemment que c'est prévisible puisque on va suivre en fait les choses qui se nouent et qui se dénouent au fil de l'intrigue. Ensuite, je pense que le propos n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce film. Et d'ailleurs, la mise en scène, elle est intéressante aussi justement parce qu'elle est prise au second degré par Luca Guadagnino qui n'investit pas exactement ce qu'il avait investi dans Call Me By Your Name. Parce que je pense qu'il faut le dire quand même pour les auditeurs. Si vous avez aimé Call Me By Your Name...
Alors, rappelez peut-être le film.
Alors qu'il y a une histoire de désir homosexuel...
Adolescent.
Exactement, filmé assez délicatement, en tout cas très mezzo par Luca Guadagnino, à une époque où ça n'était pas produit par un grand studio comme ce film-là l'est aujourd'hui. Si vous avez aimé cette délicatesse-là, la manière dont le désir naît, là, c'est totalement autre chose, et vous n'aimerez pas forcément ce film Challengers, et qui est un film dans lequel on ne sait pas si lui réellement s'investit ou simplement il s'amuse avec des codes, il joue, et notamment il joue à nous épuiser, à nous rejeter et à nous attirer. C'est-à-dire en fait, il nous rejette par une mise en scène trop puissante, il nous attire par des corps qui nous exposent, et par des dialogues qui sont pas inintéressants non plus, mais entre des personnages qui sont toujours à moitié dénudés.
Adrien Desnouettes.
Non, mais c'est moi je trouve ça assez ça stylise. C'est vraiment un geste baroque qui s'inscrit dans la tradition du maniérisme. Vous savez, le maniérisme, c'est quand vous citez des images déjà existantes, quand vous faites du Brian De Palma ou que vous citez des films déjà existants. Et ce qui est très intéressant, je regardais pendant le film, et je me disais c'est marrant. Bon, évidemment, le triangle amoureux, ça fait penser à Julie Jim, tout ça. Et je me disais c'est incroyable le nombre de remakes et de variations et de relectures que le cinéma de François Truffaut aura suscité. Ne serait-ce que Julie Jim. film, en y repensant et en revoyant cette volonté très très forte et assumée, et ce qui fait le prix du film, de styliser autour de figures qu'on connaît, et ben je me suis dit, mais en fait Guadagnino, il est en train de faire son Fight Club, qui était à la manière de Fincher, aussi une relecture du Jules et Jim, mais de manière encore plus tordue, encore plus stylisée.
Alors ça, j'avais jamais entendu. Fight Club est une relecture de Jules et Jim.
Fight Club est un Jules et Jim. De même que, si vous voulez, Kill Bill de Tarantino a été une relecture extrêmement stylisée au goût du cinéma asiatique de La mariée était en noir. Oui. Et je me suis dit, c'est marrant parce que moi, quand je revois ces films de Truffaut aujourd'hui, je les trouve justement très très peu mis en scène. Et c'est comme si Truffaut avait mis le doigt sur des espèces de...
Il avait des bonnes intuitions.
D'excellentes intuitions narratives qui allaient être mieux retravaillées par le maniérisme d'après. Et ce qui est très très beau, vous disiez tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que le propos est important? Non, il n'est pas si important parce qu'on ne fait que... Non, mais je veux dire, c'est pas important. Je veux dire, c'est d'abord de la mise en scène. C'est d'abord quelque chose. C'est un film qui a d'abord des choses à nous montrer et nous remontrer. Et bien le faire.
Ce qui n'était pas le cas de Call Me By Your Name.
Non.
Vraiment, il y avait, au-delà de la mise en scène qui était très délicate, avait quand même un propos sur la naissance du désir et d'un désir homosexuel inattendu pour le personnage, avait quand même cette portée-là.
Ouais, et en même temps, c'était quand même déjà un film qui s'apesantissait énormément, qui s'intéressait énormément à la naissance du désir. Et la naissance du désir n'était pas en frein. On était dans un milieu bourgeois où tout se passait bien. Et en fait, l'intrigue n'était pas dans cet empêchement. C'était pas une intrigue de mélodrame. Donc, déjà, en fait, Luca Guadagnino nous montrait beaucoup plus qu'il nous raconter quelque chose avec une espèce de...
C'est toujours montrer le désir.
C'est toujours montrer le désir, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est très, je trouve, en fait, ce qui est assez virtuose de sa part ici, c'est que de la même façon qu'il déconstruit un petit peu la mise en scène du match de tennis qui est assez glacé, qui est assez figé, en entrant du point de vue de la balle et tout ça, et ben en fait, il le fait aussi avec la narration. C'est-à-dire que vous avez une suite de flashbacks qui, au début, sont assez lisibles, assez transparents, et à un moment, deviennent complètement étourdissants. On sait même plus où on en est. Et c'est là que le film devient assez brillant dans sa volonté, ben justement, de ne faire que du style et faire briller du style. Et en ce moment, je trouve que ça me manque un peu. Je ne m'attendais pas à ce que Luca Guadagnino, que je considérais comme un espèce de poseur, arrive à le faire. Et là, franchement, ça marche.
Du match, c'est un peu plus calme. Challengers, donc, de Luca Guadagnino avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Feist. C'est en salle aujourd'hui.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent de Bushman, de David Chikile.
Man, I can't get used to these strange black people on the wall. Everything about them white except the color of your skin.
A cop stopped me. I told him I'm an African chief, and he became really friendly and let me go.
No, you've had time with the brothers on the block.
I'm blacker than you are.
1968, Martin Luther King a été assassiné. Le Nigeria est en proie à une guerre civile, la guerre du Biafra, et la Californie est sous tension entre lutte étudiante, mouvement des Black Panthers et répression policière. C'est dans ce paysage en noir et blanc que déambule Gabriel. Il fait du stop, une chaussure sur la tête, pris par un motard hippie, version Easy Rider, et commence à parler. Il vient du Nigeria, du bush, de la brousse. C'est un bushman qui découvre cette Amérique raciste, fantasmant une Afrique qui n'a jamais existé. Étudiant blanc, riche, rentier, militant afro-américain, aucun ne comprend ce Nigeria dont il parle. Alors Gabriel continue à déambuler, à buter contre cette incompréhension jusqu'à un tournant, jusqu'à ce moment où la réalité rejoint la fiction à quelques minutes de la fin. Ce film inédit, même aux États-Unis, n'avait pas pu sortir en 1971. Trop inclassable, trop déstabilisant. Eh bien, c'est désormais chose faite, version restaurée. Qu'en avez-vous pensé, Adrien Desnouettes ?
J'en ai pensé du bien. C'est une découverte.
Bah, un peu plus d'enthousiasme alors.
Oui, non, mais pardon, ce genre de découverte de petites perles qu'on retrouve. Alors, si
j'ai dit pépite trois fois quand même, donc.
Je trouve un synonyme. Non, mais c'est un film vraiment très très intéressant. Et en fait, voilà, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que le film se lance sur une espèce de d'idées un peu qui auraient pu être un peu relou, c'est-à-dire le côté on va faire du roman du 18e mais remis dans l'Amérique des années 60 avec, vous savez, cette espèce de roman où un étranger, un bon sauvage, quand je dis le 18e c'est les romans des Lumières, vient et dresse un portrait satirique de notre société du point de vue de son espèce de son idiotie éclairée. C'est pas du tout ça. Très très vite, le film se lance sur une scène qui est assez intéressante et qui en fait résume tout ce que va faire le film. C'est que notre personnage de Nigérian qui arrive dans la société américaine, le San Francisco des années 60, qui est une espèce de marmite bouillonnante de contre-culture, de recherche en tout cas contre-culturelle, ou d'alternative culturelle à l'American Way of Life, on est là-dedans, il arrive là-dedans, et tout de suite il fait une rencontre. Une rencontre avec un personnage qui détonne un peu avec tous les autres qu'il va rencontrer, parce que c'est une suite de rencontres en fait. Et ce personnage, il rencontre en fait quelque part le pire. D'emblée, il tombe sur le pire. Il tombe sur une espèce de taxi Hells Angels qui l'embarque et qui lui dit tout tout de suite ce que l'Amérique, disons blanche, raciste des années 60, pense de lui. Et elle lui dit « Ah, tu viens du Nigeria, tu viens d'Afrique, mais alors tu parles en gros, c'est pas traduit comme ça, c'est Mambo Jumbo qui lui dit, mais en gros tu parles Bamboula. » Et l'autre, assez vite, on comprend qu'il ne va pas se braquer, mais va rebondir là-dessus et lui dire « Oui, oui, bien sûr, je parle cette langue de la savane, de la brousse », et va rentrer dans son délire. Et très vite, vous allez en fait avoir une espèce de dialogue, et vous allez comprendre que c'est moins lui qui va regarder la société américaine que la société américaine qui va projeter énormément de choses sur lui. Et ce qui est très beau, ce qui est très très finement fait dans le film, c'est que jamais cette espèce de projection sur ce qu'il incarne ne crée de crispation ou de vexation ou de points de tension politique. Ça ne crée que des scènes comiques.
Il y a même une forme d'amusement, d'ironie presque.
Ça ne crée que des occasions de scènes comiques, qui évidemment s'amusent à moquer, railler la société dans laquelle on ne fait que projeter des choses sur lui. Mais justement, en fait, le film désamorce toute la potentielle lourdeur, disons, militante, politique de l'époque, en trouvant à chaque fois sa traduction dans des scènes comiques. Et j'ai trouvé que c'était plutôt finement fait.
Antoine Léris.
Justement parce que ce que dit Adrien est très juste, c'est parce que le personnage, ce personnage principal de ce film n'est pas construit, c'est le seul qui n'est pas construit. Mmh. C'est le seul qui n'est pas structuré pour être un archétype, contrairement à tous ceux, toutes celles et tous ceux qu'il rencontre. Et je pense que c'est ça la principale qualité du film, et d'ailleurs tout du long, même au moment de ce retournement que vous annoncez, c'est que ce personnage est vrai. Ce Gabriel, donc Paul dans la réalité,
est le Hoc Pocam, voilà
est le seul qui a une forme de vérité. Tout le reste autour, on sent, est une construction scénaristique, mais lui dégage quelque chose de vrai. Et cette scène d'ouverture, moi, je l'ai trouvée fascinante, le tout début. Cette idée aussi d'un road trip, mais qui va se faire à pied, qui va se faire à la vitesse de la marche, et donc à la vitesse des rencontres. C'est-à-dire, il va pas être question de quel pays je découvre, mais quel quartier, quel petit endroit, quelle minuscule petite chose je vais pouvoir découvrir. Ensuite, le film dit des choses très très intéressantes, notamment sur le rapport des Noirs américains, des Africains américains, par rapport à l'Afrique, et des Blancs également par rapport à l'Africain qui arrive. Je trouve ça très intéressant que le film montre des relations interraciales, donc il a des relations sexuelles avec des femmes blanches, ce qui est quand même aux États-Unis quelque chose de toujours extrêmement transgressif, mais que ça apparaît beaucoup moins parce que lui n'est pas un Noir américain, mais un Africain. Et là, ça montre en creux la double peine que subissent les Américains noirs, c'est-à-dire non seulement il y a un racisme lié à la race, la couleur, mais il y a aussi une autre chose, c'est l'héritage de l'esclavage. C'est-à-dire que quelque part, un Noir qui n'est pas né de l'esclavage, lui sera considéré différemment. Et donc là, on voit avec ce type de scène-là la double peine que vivent les Africains-Américains, et on comprend les réactions, y compris les réactions brutales qui viennent à cette époque-là en même temps, et notamment on pense à un personnage comme Malcolm X.
Et puis, sur cette réaction aussi des Africains-Américains, ce qui est intéressant, c'est que quand Gabriel les rencontre, on se dit, à la différence justement du taxi qui le recueille, le hippie Easy Rider au début, enfin, qu'il récupère en stop, on se dit qu'il va être, qu'il va partager son expérience. Parce que c'est un film sur son expérience vécue, sur ce qu'il vit à travers des errances, à travers des rencontres. Or, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas non plus compris, ils ne se comprennent pas. Quand ils parlent de la guerre au Nigeria, ils disent oui, c'est une guerre de tribus non, qui se passe là-bas.
En fait, la jeune femme noire qui le rencontre lui dit « You are not a real nigger ».
Alma, oui. Et elle lui apprend même à parler africain-américain.
Exactement, donc à parler avec l'accent des quartiers noirs américains. Et donc on voit que cette frontière-là n'est pas qu'une frontière de question de race et de couleur, mais qu'elle va bien au-delà de ça. Et ça, c'est très intéressant dans le film.
Adrien Desnouettes.
Moi, je trouve que l'endroit où le film me plaît le plus, par sa substance un peu perverse, c'est qu'en fait, je pense que ce dont il se moque vraiment, c'est de la contre-culture américaine des années 60. Et en fait, parce que voilà, c'est une période extrêmement idéalisée, extrêmement fantasmée, où on a l'impression que l'Amérique se retourne contre elle-même. Et en fait, c'est surtout une période où une certaine jeunesse, voilà, qui est très bien montrée dans le film, qui est à la fois africaine-américaine, mais aussi bohémienne blanche, va chercher à renouer avec une forme d'authenticité perdue. Et donc, ce personnage arrive dans le décor et incarne tout de suite un fétiche, alors sexuel mais pas que, un fétiche culturel aussi, qui serait justement une surface de projection de toute cette authenticité perdue qu'on voudrait retrouver. Et en fait, assez vite, ce qui est très beau, c'est que Ce que ça montre, c'est plutôt le portrait d'une société en recherche d'une alternative culturelle, mais seulement capable de projeter des stéréotypes dont elle n'arrive pas à se déprendre. Mmh. Et il y a une scène qui est très très belle, c'est une scène d'amour où le personnage principal fait une rencontre un soir avec une bohémienne blanche et l'accroche se fait très très vite. Elle l'apprécie, il a cette espèce de... En plus, il est pieds nus, il est noir, elle comprend assez vite qu'il vient vraiment d'Afrique, il porte une bûche. Donc il y a vraiment une espèce de cliché comme
c'est
ça, l'étudiante, du bon sauvage.
Elle est étudiante en sociologie.
Voilà, étudiante en sociologie, donc parfait, voilà, on est dans la société des années 60 contre-culturelle qui cherche des repères et d'identité, et elle tombe amoureuse de lui. S'ensuit une nuit d'amour, et en fait s'ensuit surtout une gueule de bois du lendemain matin, où elle le regarde pour de vrai, et d'un coup elle lui reproche ce qu'il est.
Elle lui dit, prends la brosse à dents sale, qu'est-ce que tu fais avec ta bûche? Tout ce qui pouvait l'attirer devient tout à coup au grand jour du racisme.
C'est ça. Le personnage lavé de toutes ces images qu'elle a projetées sur lui grâce à l'alcool ne devient qu'une espèce d'étranger dont elle ne sait pas quoi faire et qu'elle se dépêche de renvoyer. Et donc elle préfère, qu'est-ce que montre la scène, c'est qu'elle préfère les images qu'elle projette de toute cette
fantasme.
Espèce de... C'est fantasme, plutôt que la réalité pourtant plutôt séduisante de ce personnage.
Alors il faut le dire aussi, c'est un film qui est très court. Effectivement, il y a une rupture à un moment du film, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas la dévoiler, Antoine Léris. Mais on peut déjà dire que dans son montage, dans sa structure, ce film il est assez étonnant. C'est-à-dire que à ces errances de Gabriel se superposent des témoignages face caméra, comme si on avait l'impression en fait que c'était Paul qui interprète Gabriel, qui nous témoignait du Nigeria dont il vient réellement, des souvenirs du Nigeria, ce qui fait qu'on a une sorte d'objet effectivement un petit peu inclassable.
Totalement inclassable, qui tâtonne d'ailleurs tout au long. On a l'impression que l'histoire s'écrit peut-être en même temps qu'elle est filmée. Et effectivement, on ne sait pas, même si on le suppose, on ne sait pas au début si c'est un documentaire, si c'est un film de fiction ou si c'est un film de fiction qui imite un documentaire. Enfin, c'est assez inclassable et d'ailleurs, ça le restera. Et on est pendant, effectivement, les 50 premières minutes un peu perdu. En tout cas, on suit les pas de cet homme-là jusqu'au moment où l'irruption du réel nous permet de comprendre quel était le projet cinématographique. En fait, vous avez parlé de pépites, vous avez dit, je l'ai rappelé trois fois, les perles. Voilà, ça n'est pas un chef-d'œuvre oublié. C'est une petite pépite qui raconte quelque chose et notamment qui raconte comment parfois, quand la réalité fait irruption dans la fiction... Ben, elle permet de regarder la fiction un peu différemment et probablement avec un peu plus de tendresse que ce qu'on aurait regardé ce film s'il avait été une pure fiction.
Et puis c'est un film qui résonne quand même avec aujourd'hui, c'est-à-dire que ce miroir tendu à voilà, vous pensez bien pensant, vous êtes progressiste, mais voilà ce que vous pensez. Là au moins c'est quand même dit et ça date de 1968. Donc bon, pour ce coup-là, on peut aller voir quand même cette petite pépite, je le redis, de David Chikele, c'est Bushman, c'est en salle aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Léris, Adrien Desnouette. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.